France Musique. Musicopolis.
Mars 1939, Rio de Janeiro. 10 octobre 1947, Paris. 25 mars 1939 à Rio, c'est la chanteuse, poétesse et écrivaine Ruth Valadares Correa qui crée la 5e Bacanas Brasileiras de son compatriote Heitor Villa-Lobos. Pour le moment, le morceau s'appelle Aria Cantilena. Villa-Lobos l'enregistre bientôt avec la soprano Bidou Sayao. Et enfin, le 10 octobre 1947, c'est la création du 2e mouvement que le compositeur a ajouté entre-temps sous le titre « Danza », cette fois-ci à Paris avec la chanteuse Hilda Olin. Cette cantilène, Aria Cantilena, comme l'a appelée Villa-Lobos, est sans aucun doute son œuvre la plus connue, même s'il a été extrêmement fécond et qu'il a un catalogue riche et varié. L'œuvre a été enregistrée tellement souvent, par tellement de sopranos différentes, qu'elle a été vite popularisée. Très remarquée dès le premier enregistrement réalisé en 1945. Villa-Lobos écrit fièrement à un ami « Avez-vous vu le disque que j'ai fait avec CBS ?» Bacanas Brasileiras numéro 5, Bidou Sayao et un groupe de violoncelle, a été nommé meilleur disque 1946. La littérature en français sur Villa-Lobos n'est pas suffisamment abondante pour que nous disposions d'une bonne grosse biographie au jour le jour. Et donc, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent comme anecdote sur la création de la Bacanas Brasileiras numéro 5. Sauf celle qui concerne ce premier enregistrement réalisé en 1945 à Rio. C'est la soprano Bidou Sayão elle-même qui a raconté qu'un rendez-vous avait été pris dans les studios de la Columbia. Elle se retrouve là avec un petit ensemble de violoncelles et l'ingénieur du son. Villa-Lobos arrive pour diriger. Après quelques minutes de conversation, l'ingé son indique qu'il est prêt à enregistrer. Villa-Lobos monte sur le podium et on commence l'essai de micro.
Yeah.
Après l'essai de micro, réalisé dans les studios de la Columbia, pendant lequel on en a profité pour filer toute la cantilène, l'ingénieur du son tend un casque à Villa-Lobos, qui écoute attentivement. À la fin, il enlève le casque, il le pose et il dit « C'est parfait, on va prendre cette prise ». Il remet son chapeau et il s'en va, à la stupéfaction de tous les assistants. Vous l'avez compris, Villa-Lobos n'est pas homme à perdre son temps en prises inutiles. Avec raison, semble-t-il, puisque d'après l'un de ses biographes, cet enregistrement a été le plus vendu de tous ceux qui ont été réalisés de toutes ses œuvres. Voilà donc pour les anecdotes. J'en aurai juste une autre à vous raconter, mais tout à l'heure. En attendant, parlons un peu du titre. Bacchanas Brasileiras, au pluriel. Et toujours au pluriel, même lorsqu'il n'y en a qu'une. C'est Villa-Lobos qui le demande. Commençons par le premier des deux termes, Bacchanas, qui a trait à Bach, qui rend hommage à Bach. Le jeune Heitor Villa-Lobos a 12 ans en 1899 lorsqu'il perd son père. Son père, qui l'avait initié à la musique, lui avait appris le violoncelle, avait fait en sorte de développer son oreille en la sollicitant sans cesse et qui lui avait fait entendre beaucoup de musique classique. Comme l'adolescent est un peu difficile, sa mère le confie alors à la tante Fifinha, musicienne de bon caractère qui s'entend bien avec lui. Elle le laisse sortir pour écouter les musiciens des rues, mais en même temps, elle l'initie au prélude des fugues de Bach. Villa-Lobos éprouve une immense passion pour Bach, à tel point qu'il transcrit les préludes des fugues pour diverses formations, par exemple pour ensemble de violoncelle. Le violoncelle, le premier instrument qu'il a appris et qui lui permettra de gagner sa vie bientôt en jouant dans les théâtres, les hôtels ou les cinémas. « Villa-Lobos utilise aussi les préludes et fugues de Bach pour élargir le répertoire des chœurs qu'il fait travailler. Pendant les années 30, en effet, il s'est beaucoup consacré à l'éducation musicale du peuple brésilien par le chant choral, ce qui l'a conduit à réfléchir à de nouveaux programmes. Maintenant que nous avons éclairci la relation entre Villa-Lobos et Bach, voyons un peu le deuxième terme de son titre, Bachianas Brasileiras. Bachianas brésilienne. Quelle est donc sa relation avec la musique de son pays, le Brésil ?
Sou caboclo brasileiro, tenho sangue de guerreiro, descendente de Tupi. Já andei por outras terras, tenho visto muitas terras, como a nossa nunca vi. Tenho amor à minha terra, que belezas ela encerra nesses matos do sertão, onde os nossos índios bravos.
Il y a plusieurs genres de musique populaire au Brésil, comme partout, avec toutes sortes de formes, de styles et d'ambiances. La modinha, par exemple, est un chant nostalgique, assez lyrique, et qui incarne l'esprit romantique brésilien, qui nous rappelle bien sûr l'aria de la cinquième Bachianas Brasileiras. L'origine de la modinha est à retrouver au XIXe siècle et même avant, comme c'est le cas aussi pour les musiques urbaines jouées par les choroenches, les musiciens réunis dans des groupes appelés choruches et qui jouent principalement des danses européennes, mais brésilianisées. Villa-Lobos en a beaucoup écouté dans sa jeunesse. Appréciant ces différents styles de musique qui tous participent de l'âme brésilienne, Villa-Lobos s'inspire aussi bien des musiques urbaines très rapides et rythmées que des modinhas plus nostalgiques. Dans les années 20, il va même composer un groupe de pièces qui portent le titre général de Chorus. Dans le cinquième, pour piano seul, qu'il intitule justement Alma Brasileira, âme brésilienne, il réussit à réunir tous les genres à la fois. Oui, je suis brésilien, déclare-t-il, très brésilien. Dans ma musique, je laisse les rivières et les mers de ce grand Brésil chanter. Je ne bâillonne pas l'exubérance tropicale de nos forêts et de nos ciels, que je transpose intuitivement sur tout ce que j'écris. Lorsqu'il décide de se lancer dans la série, qui comportera 9 numéros des Bacchanas Brasileiras, Villa-Lobos utilise encore les genres typiques de la musique brésilienne, mais cette fois-ci plus tout à fait comme il l'avait fait dans les Choros, puisqu'il mêle des traits de la musique de Bach. Musique qu'il considère, dit-il, comme une ressource folklorique universelle, riche, profonde, comme les musiques populaires de tous les pays, expression directe des peuples, tandis que Bach est un intermédiaire entre toutes les races. Bien sûr, ces Bacchanas Brasileiras ont beaucoup interrogé les commentateurs. Et par exemple, Madeleine Millot, qui interviewe Villa-Lobos en 1952 à la radiodiffusion française.
J'ai trouvé toujours jusqu'à maintenant que Bach, pour moi, comme j'ai beaucoup étudié cette monstruosité d'homme, j'ai compris que cet homme, pour moi, devenait un folklore universel. Alors, j'ai trouvé, et moi, je pouvais faire un hommage à lui, à la logique. En même temps, j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre certaines de ses façons d'être musicales comme la musique populaire du nord-est du Brésil. Il a une affinité extraordinaire. Alors, j'ai profité de toutes ces choses et j'ai écrit une série de 9 suites. Enfin, tout en pensant à Bach. J'espère que l'avenir, la prospérité, peut m'y donner une approuve de ça.
En fait, je vous avais promis une dernière anecdote. Elle a rapport justement avec l'enregistrement que nous écoutons. Victoria de Los Angeles avec Villa-Lobos et l'Orchestre National de la RTF en 1956. Notre compositeur était un fumeur de cigares constant. Et pour faire passer l'odeur persistante, il s'aspergeait d'un parfum puissant et capiteux, tout aussi persistant. Victoria de Los Angeles, totalement écœurée par l'odeur, a fini par refuser de venir aux séances d'enregistrement tant qu'il ne s'en débarrasserait pas. Villa-Lobos a obtempéré, et aujourd'hui encore, cet enregistrement récolte les premiers prix des tribunes de disques.
Se o amor se vai subir.
Dança, la deuxième partie de la cinquième Bacchanas Brasileiras d'Heitor Villa-Lobos, Victoria de Los Angeles avec l'ensemble de violoncelle de l'Orchestre National de la RTF, dirigé par le compositeur. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Claire Levasseur pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.